La Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord, selon Donald Trump. Le président américain continue de pousser pour un accord de paix. Son émissaire, Steve Witkoff, a rencontré Vladimir Poutine à Moscou hier, quatrième rencontre en trois mois. L'administration Trump continue donc de discuter de cette guerre avec la Russie, toujours sans inviter ni l'Ukraine ni les Européens. Et cette visite à Moscou illustre un peu plus le rapprochement russo-américain. On en parle ce matin avec Claude Blanche-Maison. Bonjour.
Bonjour.
Ancien ambassadeur de France en Russie, ancien directeur des départements d'Europe et d'Asie au Quai d'Orsay. Diriez-vous, Claude Blanche-Maison, qu'aujourd'hui l'administration Trump veut juste la paix, peu importe la manière et le prix à payer ?
Ben, je crois que ce que veut M. Trump, c'est surtout rétablir de bonnes relations avec la Russie. Rétablir des relations de coopération dans le domaine politique, dans le domaine stratégique, mais surtout dans le domaine économique entre les États-Unis et la Russie. Et dans le fond, l'affaire ukrainienne est un obstacle à cela, et donc un problème collatéral pour les Américains. C'est pas un sujet central. On voit bien que M. Witkoff, comme vous venez de le dire, qui faisait sa quatrième visite au Kremlin hier, a discuté encore une fois trois heures avec Poutine, mais probablement qu'une grande partie de cet entretien a été consacrée aux investissements futurs que les entreprises américaines pourraient faire dans le Grand Nord russe, par exemple, les Russes ayant besoin de capitaux et de technologies pour exploiter les hydrocarbures qui se trouvent sous le permafrost dans le Grand Nord russe. Évidemment, ils ont aussi parlé de l'Ukraine, puisque c'est très important, mais en réalité, M. Trump a la tentation, on le voit bien, contraindre M. Zelensky, le président ukrainien, à accepter beaucoup des conditions de Moscou, sans tirer grand-chose du côté de l'Ukraine.
Alors la proposition, justement, cette proposition de paix proposée par Washington, vous évoquez cette dimension économique, cette coopération économique prévue entre la Russie et les États-Unis. Que dire justement de cette dimension économique, du fait que les États-Unis négocient des avantages pour eux-mêmes dans un dossier qui, dans une guerre, qui ne les concerne pas vraiment ou de loin?
En effet, pour les États-Unis, l'Ukraine, c'est très loin, c'est une affaire européenne, et dans ce contexte, effectivement, M. Trump essaie de se désengager de cette guerre en Ukraine, soit en résolvant la guerre à des conditions qui sont très favorables pour la Russie, soit tout simplement en laissant tomber l'Ukraine, c'est-à-dire en ne fournissant plus une aide militaire américaine à l'Ukraine. Évidemment, sans aide militaire américaine, l'Ukraine sera dans une très grande difficulté, car l'Europe a promis de poursuivre son aide à l'Ukraine, mais l'Europe n'a pas autant de moyens à fournir à l'Ukraine dans le domaine militaire que la Russie, et notamment des moyens de renseignement satellite.
Alors dans cette proposition toujours de paix, vous l'avez évoqué, les territoires ukrainiens, Washington, cet accord prévoit la reconnaissance d'une Crimée russe, alors que cette région ukrainienne a été annexée en 2014. Le président ukrainien signalait hier qu'il ne ferait pas de concessions territoriales, notamment sur la Crimée. Que risque Zelensky en disant cela? Est-ce qu'il pourrait encore provoquer la colère de Donald Trump, qui déjà l'a accusé plusieurs fois de ralentir, de ne pas être coopératif?
Vous avez raison. Jusqu'à présent, Zelensky avait fait très attention de ne pas provoquer le président Trump après l'épisode calamiteux
de
son humiliation
blanche dans
le bureau ovale, bien sûr. Donc il faisait très attention de ménager. Mais là, à partir du moment où le président Trump dit les États-Unis vont reconnaître que la Crimée fait partie juridiquement de la Fédération de Russie, il est bien obligé de dire que ça n'est pas acceptable pour lui. D'ailleurs, au passage, j'indique que ça n'est pas acceptable pour nous non plus. Parce que ça veut dire qu'on donne une prime à la force et que dans n'importe quel endroit du monde, un pays qui est indifférent avec son voisin pourrait l'envahir et vouloir changer les frontières. Or, le droit international, depuis en tout cas la Deuxième Guerre mondiale, c'est un droit international qui consacre l'intégrité territoriale des États qui sont représentés à l'ONU. C'est consacré d'ailleurs par l'Organisation des Nations Unies. Et effectivement, l'Ukraine, eh bien, a des frontières internationales qui ont été reconnues par tout le monde, par l'ONU, y compris d'ailleurs par la Russie. Et ce sont ces frontières que M. Poutine voudrait modifier.
Alors, est-ce que c'est pas étonnant aussi que Trump reprenne vraiment, presque mot pour mot, la rhétorique russe dans un entretien au Time? Donc il parle de la Crimée qui va rester russe selon lui, qui devrait rester russe. Il dit aussi que la Russie se défendait quand elle a lancé la guerre contre l'Ukraine, car elle ne voulait pas que Kiev rejoigne l'OTAN. Est-ce que ça n'affaiblit pas le président américain de soutenir à ce point Poutine dans ce dossier, de reprendre ses mots, d'accepter les très fortes exigences de Moscou ?
Je crois qu'en effet, ça ne le dérange pas. C'est un médiateur qui a pris le parti de la Russie, mais parce qu'il considère que, dans le fond, la scène internationale doit être, à partir de maintenant, régie par les rapports de force, beaucoup plus que par le droit international, beaucoup plus que par les organisations multilatérales. Par conséquent, Poutine étant un dirigeant puissant, la Russie étant un pays qui détient un stock d'armes nucléaires considérable, eh bien, il faut en tenir compte et par conséquent faire des compromis favorables à la Russie. Ça n'est pas acceptable pour M. Zelensky, ça n'est pas acceptable pour la grande majorité des Européens.
Et parce que Trump aussi veut peut-être apparaître comme le faiseur de paix. Il avait dit qu'il résoudrait la guerre en 24 heures. Voilà, il veut apparaître comme
Alors effectivement, un faiseur de paix. Pour y arriver, le seul moyen, c'est d'accepter les conditions russes. À ce moment-là, les Russes ont dit, nous sommes prêts à signer un accord de paix demain matin, mais à nos conditions. Mmh. Alors bien entendu, si ça revient à une reddition de l'Ukraine, ça n'est pas une solution. D'ailleurs, M. Zelensky l'a dit, il ne peut pas le faire. Constitutionnellement, il n'a pas le droit de le faire. Et en tout état de cause, la population ukrainienne ne l'accepterait pas.
Claude Blanche-Maison, l'attitude russe aussi, elle reste toujours très évasive, très discrète. Parfois, on a l'impression que le Kremlin cherche à gagner du temps en disant oui, on est prêt pour un accord, on y travaille. Est-ce que cette diplomatie floue peut marcher avec un Trump qui parfois, lui, s'impatiente ?
Oui, bien sûr, on a encore entendu M. Lavrov dire ce que vous venez de dire, c'était hier, il a dit, mais nous sommes très près d'un accord avec les États-Unis, bien sûr, mais s'il y a un accord entre la Russie et les États-Unis, ça n'est pas pour cela que l'Ukraine, qui n'est pas à la table de négociation, acceptera cet accord. Et bien sûr, les Russes et les Américains ont des moyens de faire pression sur M. Zelensky, mais je pense que, dans l'état actuel des choses, compte tenu de l'état d'esprit de Zelensky et de la population ukrainienne, compte tenu du soutien qu'il a du côté européen, eh bien, il n'accepterait pas un plan qui comporterait la reconnaissance juridique de l'appartenance de territoire ukrainien à la Russie.
Mais ça, si la Russie le sait, que Kiev n'accepterait pas un tel accord, a-t-elle vraiment envie de mettre fin à la guerre si elle sait que ses exigences sont trop fortes ?
Vous avez mis le doigt sur le point sensible. En effet, la Russie le sait, et il est bien possible que en poussant Trump à faire ce pas de reconnaître le fait que la Crimée fait partie juridiquement de la Fédération de Russie, eh bien, dans le fond, elle sait que ça ne sera pas acceptable par Zelensky et que, par conséquent, la guerre se poursuivra. Mais la Russie est prête à poursuivre la guerre. En réalité, la Russie, probablement, ne veut pas de paix à court terme, était prête peut-être à accepter un cessez-le-feu partiel pour reconfigurer ses troupes, mais sans doute pas une paix véritable.
Claude Blanche-Maison, est-ce que vous êtes surpris aussi de l'attitude européenne ? Les Européens, ils se font peu entendre en ce moment. Comment peut-il faire pour reprendre la main ?
C'est très difficile parce que les Européens sont aussi dans une négociation globale avec les États-Unis, y compris sur les problèmes commerciaux, sur les problèmes de droits de douane, sur les problèmes économiques, et que par conséquent, pour les Européens, il n'est pas utile d'aggraver la relation avec les États-Unis, mais pas au point de laisser tomber l'Ukraine. Par conséquent, les Européens soutiendront l'Ukraine. Le président français a dit, lorsqu'il était à Tananarive, intégrer territoriale de l'Ukraine.
Et en tout cas, les présidents ukrainiens et américains vont se croiser aujourd'hui à Rome. Ils vont se croiser aux funérailles du pape François. Merci beaucoup, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. Je cite aussi votre ouvrage qui vient de sortir, Fragment d'un parcours aventureux, où vous racontez votre carrière de diplomate. C'est aux éditions Temporis. Merci à vous.